18h03, on n'est pas trop en retard, c'est juste parfait. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue au nom d'abord de nous tous, au nom de l'Université de Neuchâtel, qui a organisé ce café scientifique, un café scientifique sur la géothermie et qui est titré « Chaud et froid sur la géothermie ». Quand Igor Chlebny, le coordinateur de ces cafés scientifiques, m'a indiqué le titre, j'ai trouvé que c'était assez bien. D'une part parce que, c'est pas pour cirer les pompes, mais j'ai trouvé assez bien. D'une part parce qu'avec la géothermie, on peut créer du chaud ou du froid. On verra peut-être ça aussi. D'autre part parce que, effectivement, le chaud, donc ça veut dire le bien, etc., etc., c'est... Il y a quand même beaucoup de choses qui se font en géothermie en Suisse, notamment. On est les champions du monde, je crois, pour ce qui est la géothermie, qu'on va dire, privée, des bâtiments, etc., les centres géothermiques, les serpentins qu'on met dans son jardin, etc. On expliquera ça, tout ça. Le froid, parce qu'en revanche, quand il s'agit de géothermie profonde, il y a eu quelques expériences un tout petit peu malheureuse, on va dire, c'est-à-dire que il y a eu des conséquences de certaines explorations, donc c'est des conséquences en amont de l'exploitation géothermique, notamment on se souvient des micro-séismes, voire des quasi-séismes de Bâle, notamment. Ensuite, ce qui s'est passé à Saint-Gall, où là, il y a une poche de gaz qui a été découverte. On a continué à forer après, mais bon, sans trouver ce qu'on voulait trouver. Et puis, il y a aussi une actualité, puisque maintenant il y a plein de projets qui sont en route de nouveau, notamment un dans le Jura, notamment un à Genève. Il y a un projet aussi du côté de Lavey-les-Bains, dans le canton de Vaud, dans le Chablais vaudois. Et en fait, certains de ces projets, notamment celui de la Haute-Sorne, qui implique un forage très profond, fait qu'il y a des grosses oppositions. Et parce qu'il y a des craintes de séisme toujours, etc. Donc on va essayer de discuter de tout ça. On va essayer de discuter de tout ça avec quatre intervenants qui sont quatre spécialistes de la question et que je vais laisser se présenter eux-mêmes. Ce sera beaucoup plus simple et ce sera moins difficile pour moi. Et on va commencer peut-être par Nicole Loupy qui nous vient de l'Office fédéral de l'énergie. Je vous laisse vous présenter, madame.
Bonsoir à tous. Donc Nicole Loupy, Office fédéral de l'énergie. Je suis responsable de la géothermie profonde à l'OFEN. Donc je suis de formation ingénieur réservoir. Donc je me suis penchée sur les questions de dynamique des procédés physiques qui se passent dans l'exploitation d'énergie en général dans le sous-sol. Mon point de vue, vous voulez juste...
Si vous voulez, si allez-y. Vous voulez.
Très bien. Donc moi, en fait, ce soir, je suis ravie d'être là pour qu'on puisse parler de géothermie profonde ensemble et pour qu'on puisse voir aussi dans quelle mesure l'Office fédéral de l'énergie soutient la géothermie profonde. Et donc, ça serait avec plaisir que je vous présenterai et vous parlerai un petit peu des nouveaux instruments de soutien qui sont entrés en vigueur au 1er janvier. Voilà.
Merci. Ingénieur réservoir, ça veut dire qu'à la base, vous êtes ingénieur pétrolière.
Exactement, oui.
Voilà. On va continuer avec Nicolas Clerc, qui lui nous vient de l'État de Genève.
Bonsoir, donc, je m'appelle Nicolas Clerc, je suis géologue au service de géologie sol et déchets de l'État de Genève. Je suis originaire de la région de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds. Et je suis notamment en charge de tout ce qui est le suivi, l'accompagnement du développement de projets de géothermie. En particulier tout ce qui est opération de prospection et d'exploration du sous-sol dans le cadre du programme Géothermie 2020 à Genève, donc qui est un programme qui est conjointement mené par l'État et les services industriels de Genève et qui vise vraiment à promouvoir cette ressource sous toutes ses formes, aussi bien au niveau profond que de faible profondeur. Et ça, c'est donc co-construit par l'État et les services industriels. Et ça génère effectivement beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'administration au niveau de la gestion des données, de la manière dont on veut développer cette énergie, des idées de mutualisation qui sont importantes. Et puis aussi, l'État étant propriétaire de son sous-sol et responsable de la protection au niveau de l'environnement et des ressources qu'il renferme, il faut aussi savoir gérer un tout petit peu tout ça. Donc mon point de vue, enfin c'est plutôt le message ce soir que j'aimerais bien qu'on puisse faire passer, c'est que effectivement on a ces projets de géothermie profonde qui font couler beaucoup d'encre dont on parle et qui souvent sont à l'origine de l'idée de ce que les gens, le grand public se fait de la géothermie. Mais je pense que c'est important de mentionner qu'il existe tout un panel de solutions au niveau de la géothermie. On voit de la géothermie profonde, effectivement, mais on a aussi des systèmes géothermiques de très faible profondeur, même sur nappe, à quelques dizaines de mètres sous le sol, qui, eux aussi, sont très intéressants et répondent à énormément de besoins.
D'ailleurs, il y a un projet qui vient de débuter à Genève. On va en parler un petit peu plus tard. On va continuer avec Olivier Echederian, qui, lui, nous vient de l'EPFZ. C'est bon, il est allumé.
Les micros sont allumés, super. Bonsoir, merci de m'avoir accueilli ce soir. Donc, Olivier Echederian, moi je suis chercheur en sciences de l'environnement à l'EPFZ et associé également au centre, enfin le SCER, Supply of Electricity, donc un des centres de compétences en recherche énergétique nationaux. Et je travaille essentiellement sur les aspects sociaux et politiques liés à la géothermie, donc surtout la géothermie de moyenne et grande profondeur. Je fais plusieurs études de cas sur les projets en cours pour voir en fait comment ces projets sont acceptés, ce qui motive leur acceptation ou leur rejet par le public, et puis essayer de voir comment on pourrait rendre ces projets plus acceptables ou s'il faut passer à autre chose. Voilà.
Et on verra que ces aspects sociaux jouent quand même un rôle quand même relativement important, notamment à cause de la méconnaissance, qui est normale, qui est compréhensible, que la population peut avoir de certains aspects de cette technologie. On va finir par le deuxième régional de l'étape, puisqu'il y en avait déjà un, je ne savais pas. C'est Benoît Vallet, qui, Université de Neuchâtel. À toi, Benoît.
Oui, bonsoir. Donc, je suis prof assistant au Centre d'hydrogéologie et de géothermie. Ici à l'Université de Neuchâtel, qu'on appelle le Chine, peut-être les gens le connaissent sous l'appellation le Chine. Et je suis aussi associé au Centre suisse de compétences en recherche énergétique qui s'occupe de géothermie. Et au Centre d'hydrogéologie, je dirige un groupe de recherche qui s'appelle le groupe Géothermie et géomécanique des réservoirs. Donc ma spécialité, c'est effectivement de caractériser, décrire les réservoirs géothermiques profonds, plutôt avec un... plutôt pour les projets profonds, mais bon, on s'occupe de différents types de géothermie. Puis mon point de vue ce soir, ce sera d'amener le point de vue des questions de recherche, quelles sont les questions clés que les chercheurs en géothermie se posent, et puis d'essayer de clarifier un petit peu ces différents aspects, cette diversité de la géothermie.
Il y a une grosse recherche qui se fait actuellement dans un laboratoire qui appartient en fait à NAGRA, hein, la société qui est responsable de l'entreposage des déchets radioactifs, qui est sous le Grimsal, dans le granit. On s'y est rencontré avec Benoît Vallet il y a quelques temps, et vous avez entre guillemets loué des galeries souterraines pour justement faire des essais là, non?
Oui, exactement. Donc Ça fait partie de ces efforts de recherche des centres suisses en recherche énergétique. Et puis, au Grimsel, on utilise le Grimsel comme un analogue pour les conditions profondes. On est allé au Grimsel parce que c'est des granites. Les projets profonds comme Onshorn seront probablement dans des granites. Et on a des structures, une hydrogéologie, une structuration du massif qui est probablement similaire à ce qu'on va trouver à 5 km en profondeur. Donc c'est une bonne opportunité de mieux comprendre les processus dans ces réservoirs.
Bref, la recherche avance. Alors vous me direz, on a là tous des gens qui travaillent dans la géothermie, vous allez me dire pour la géothermie. Il y a quand même une précision qu'on doit faire tout de suite, c'est qu'il y a des gens, enfin les opposants notamment au projet de Haute-Sorne dans le Jura, qui sont très actifs, qui ont même lancé une initiative cantonale pour interdire tout projet de géothermie dans le canton du Jura, initiative qui est en cours d'examen par le Conseil d'État. Igor Chlebny, donc le coordinateur, a invité ces gens à participer. Ils ont décliné l'invitation. Voilà. Quant à moi, ça va être très rapide. Sylvio Dolzon, journaliste à la Radio Suisse Romande, RTS Radio, en l'occurrence pour CQFD, une émission sur la première qui est une émission de sciences et de médecine quotidienne. J'ai pas de formation scientifique. J'ai histoire de l'art à la base, mais c'était il y a très 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 longtemps, voilà. Et voilà, mais je me suis toujours intéressé à la science, c'est pour ça que je suis là ici, et j'ai pas le droit de vous parler de l'initiative Nobilag. Voilà. Bien, on est là pour parler de géothermie, et justement, il faut savoir de quoi on parle. Parce que la géothermie, vous avez là un tableau, chacun son tour, on va vous expliquer un petit peu ça. Il y a vraiment différents niveaux. Ça veut, géothermie, c'est pas quelque chose qui est unique. Il y a différentes techniques avec, avec différents buts, avec aussi différentes façons, différentes techniques, différentes technologies. On va peut-être commencer, on va aller du haut en bas. Puisque c'est ce qu'il y a tout en bas qui va surtout nous intéresser ce soir. On va peut-être commencer par ce que je vais appeler la géothermie de surface, hein, qui a été évoquée tout à l'heure. Nicolas Clair, vous expliquez juste en deux mots les différentes façons de faire de la géothermie au jour le jour. Vous pouvez vous lever et puis montrer sur le...
Très bien, oui. Donc, je vais si j'arrive à passer.
Je les provoque un peu parce que...
Alors effectivement, on distingue différents types de géothermie, hein, ceux dont on parle beaucoup. On a des systèmes profonds, je vais commencer par là, ceux dont on entend le plus parler, avec des systèmes pétrothermaux, où là on va vraiment à plusieurs kilomètres de profondeur.
Excusez-moi, on commence peut-être par la surface.
Alors on commence par la surface, d'accord. En surface, hein, surface c'est un vaste monde. On a différentes installations. Quand on parle de géothermie de surface... On a deux types de systèmes principalement. On a ce qu'on appelle les systèmes fermés, qu'on connaît bien. Ce sont les sondes géothermiques où on fait simplement un forage à quelques centaines de mètres dans le sol, dans lequel on fait circuler un fluide qui n'aura pas d'interaction avec la roche autre que de prendre les calories de la roche. Donc on circule un fluide, on récupère les calories en surface. Ensuite, on a aussi les systèmes. Donc dans ces systèmes fermés, on a donc les sondes géothermiques, les pieux énergétiques, des systèmes un petit peu hybrides comme des corbeilles énergétiques. Et puis on a les systèmes ouverts, qui sont des systèmes qu'on appelle des systèmes sur nappe, où on va chercher dans les nappes phréatiques finalement, on va vraiment pomper de l'eau d'un nappe, récupérer ses calories en surface et la réinjecter. Donc on parle de température de l'ordre de 15, 20, 25 degrés suivant les profondeurs, pas plus. Mais qui, avec des bons débits, en fait, permettent de récupérer aussi pas mal d'énergie. Et ça fonctionne très bien. C'est même, je dirais en tout cas pour Genève, c'est même encore sous-exploité. Il y a un potentiel énorme à ce niveau-là. C'est facile à faire. Ça demande pas des gros investissements, ni non plus de la grosse machinerie. Ensuite, on a la géothermie, on va dire de moyenne profondeur.
Attendez, on va peut-être quelques précisions. Là, il y a un tunnel. Ça, c'est intéressant, la géothermie des tunnels. Vous pouvez nous expliquer ça en deux mots?
Alors, ça, on a un cas en Suisse comme ça. Alors, effectivement, les tunnels en Suisse, on sait bien les faire, on en a pas mal. Effectivement, un tunnel, il va traverser un massif, il va donc se retrouver à certains endroits, en son milieu, pour simplifier, sous une certaine masse de roche, donc sous une belle profondeur, avec les températures associées, parce que, comme vous le savez certainement, la température du sol augmente avec la profondeur, et un gradient standard étant de l'ordre de 3 degrés par, de 30 degrés par kilomètre.
30 degrés par kilomètre.
Oui, c'est bon ça. Voilà. Je vais pas dire de bêtises. En plus, on a des géothermiciens dans la salle, alors faut faire attention. En l'occurrence, le tunnel du Lötschberg en Suisse récupère de l'eau, donc c'est de l'eau qui s'écoule à travers le massif, qui est récupérée, qui est drainée par le tunnel, et qui à sa sortie, alors je ne connais pas les températures en l'occurrence de ce cas particulier, mais est exploitée dans un but géothermique, donc la maison tropicale de Frutigen.
Le caviar.
Voilà, on élève des esturgeons pour faire le fameux caviar suisse, on fait aussi pousser des fruits tropicaux sous serre, donc ça c'est une application aussi de la géothermie.
Donc là, on est d'accord pour la surface, on est à de 50 à 300 mètres, un peu, que ce soit pour des grands bâtiments avec des pieux, que ce soit pour des maisons, on va pas plus loin.
On va pas beaucoup plus loin.
D'accord. Et puis, il y a aussi, en fait, une géothermie, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas, j'ai un ami qui l'a fait, c'est bêtement mettre un serpentin au lieu de faire descendre le fluide qu'on fait descendre, de mettre simplement un serpentin qui en fait exploite la différence de température entre l'air et le sol, même à 30 cm du sol. C'est bien ça? Il y a toujours une petite différence, et en été et en hiver, ce voilà, qui permet
ça,
les deux.
Ça fait partie des variantes de géothermie de surface, donc en système fermé, de nouveau, où on fait circuler un fluide, alors au lieu qui circule verticalement dans une sonde, effectivement, il circule sous la surface du sol.
Ouais. Puis après, il faut une pompe à chaleur.
On peut imaginer tous les systèmes un peu.
Mais ça, c'est déjà de la géothermie. D'accord. Alors, c'est un aspect qui marche très très bien en Suisse. Une fois de plus, comme dit tout à l'heure, on est, je crois, quasiment les champions du monde en matière de cette géothermie de surface, ici en Suisse. On va très peu en parler parce que c'est pas celle qui fait débat. On va peut-être passer, je demanderais peut-être céder la parole, peut-être à Benoît Vallée, pour ce qu'il y a de plus profond. Il y a deux choses plus profondes. Il y a d'abord une géothermie où on va à quelques centaines, voire un ou deux milliers de mètres pour chercher de l'eau. N'est-ce pas?
Oui, alors. On a donc. Nicolas a déjà parlé des différents systèmes en surface, système ouvert, système fermé. Donc en profondeur, typiquement, c'est des systèmes ouverts où on va chercher de l'eau. Il y a quelques exceptions. Il y a en Suisse quelques sondes géothermiques très profondes, donc des systèmes fermés qui peuvent aller à. Je crois que Trimly, c'est presque 2 km. Donc, cette distinction profondeur, peu profond, pas profond, c'est toujours un petit peu délicat. Alors, on met typiquement la limite à 400 mètres, et c'est pas pour des raisons géologiques, c'est plutôt pour des raisons normatives. Il y a une norme qui permet de faire le design des sondes géothermiques qui s'arrêtent à 400 mètres. Donc, tout ce qui est en dessous de 400 mètres entre plus ou moins sous le chapeau de cette norme, donc on dit que c'est peu profond. Et ce qui dépasse 400 mètres, c'est profond, mais c'est une limite qui est quelque peu arbitraire. Donc, pour les systèmes profonds, on a différentes coupes, disons, qu'on peut opposer quelque part. On a vu système ouvert, système fermé. On a les systèmes pour produire de la chaleur. Et puis, il y a des systèmes pour produire de l'électricité. Donc là, c'est deux systèmes similaires, mais ça demande des températures différentes. Donc pour produire l'électricité, il faut au minimum des eaux qui arrivent en surface à 100-110 degrés, alors que pour produire la chaleur, si c'est pour du chauffage, on pourrait se contenter de 35, 40 degrés, peut-être 50 degrés. Donc ça donne une certaine contrainte sur le type de système qu'on développe. Si on veut de l'électricité, il nous faut plus de 100 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher cette eau minimum à 3-4 km de profondeur. Donc ça donne une certaine... Si on prend les 30 degrés par kilomètre, on arrive à 3-4 km. Donc ça, c'est un aspect, ouais.
On peut prendre l'exemple de laver les bains de laver dans le canton de Vaud, qui est la seule station thermale de Suisse où ils n'ont pas besoin de réchauffer l'eau avant de la mettre dans les bassins. Au contraire, il y a deux puits, je crois qu'il y en a un qui va à 400 mètres, l'autre à 600 mètres, je crois que c'est ça. Et en fait, l'eau ressort à 70 degrés. Donc ça veut dire qu'ils utilisent de l'eau. Ils utilisent cette eau, en fait, d'abord pour réchauffer, voire rafraîchir en été, les bâtiments. Ils l'utilisent pour la cuisine, etc., etc., avant de devoir encore un petit peu la refroidir avant de la mettre dans les bassins, pour qu'elle arrive à 35 degrés. Mais partout ailleurs, en fait, c'est aussi des eaux souterraines, mais elles sont nettement moins chaudes, hein.
Donc l'AVE, c'est un cas particulier. On est dans des Alpes, on a une structuration du massif qui est particulière, qui fait qu'on a la source, sauf erreur à l'AVE, la source originale était à plus de 60 degrés en surface. Donc c'est vraiment des situations particulières.
La situation particulière, c'est ça?
Voilà, des failles, une structuration verticale, relativement verticale du massif, et puis des grands reliefs qui vont permettre au flux de circuler. Ouais.
Le mot faille, vous allez l'entendre encore, hein, parce que c'est justement, par exemple, ici, ça pourrait être laver les bains, il y a justement une faille qui est là, qui permet des circulations d'eau, des circulations de chaleur, etc., parce qu'il faut ça. Et c'est justement parce qu'il faut ça que parfois, ça pose problème. Donc, tu peux continuer.
Ouais. Donc, on a parlé de électricité, chaleur. Au niveau chaleur, peut-être juste encore une parenthèse, on peut aussi faire la distinction entre l'utilisation directe de la chaleur et l'utilisation indirecte. Donc indirect, c'est-à-dire que la chaleur n'est pas suffisante pour l'utiliser directement. C'est typiquement les sondes géothermiques peu profondes. On passe par ce qu'on appelle une pompe à chaleur, une machine thermodynamique qui nous permet d'augmenter la température. Alors que des cas comme l'AVE ou des cas plus profonds comme Rion ou pas mal d'autres installations, la température extraite est suffisante pour une utilisation directe. Maintenant, si on va dans les systèmes profonds, il faut savoir ce qu'on cherche. Enfin, ce qui est difficile à trouver en géothermie, c'est pas vraiment la chaleur. On sait qu'à 3, 4, 5 km, on sait à plus ou moins quelle chaleur on est. C'est pas vraiment l'eau. L'eau, il y en a un peu partout. Dans les massifs, les massifs sont assez profonds, sont saturés. Ce qui est difficile à trouver, c'est ce qu'on appelle la perméabilité. C'est la des massifs qui sont assez fracturés, qui ont des vides assez connectés pour que l'eau puisse circuler à travers ces massifs. Parce que pour pouvoir extraire cette chaleur, il faut pouvoir extraire l'eau. Et puis si l'eau circule pas, ben on va pouvoir extraire l'eau un jour, deux jours, une semaine peut-être, puis on aura plus d'eau. Donc c'est vraiment la grande difficulté, c'est de trouver cette perméabilité. Et puis ça amène peut-être à un autre couple de systèmes. On parle de géothermie pétrothermale ou hydrothermale. Donc
jusqu'à maintenant, on a vu l'hydrothermale, c'est-à-dire qu'on cherche, entre guillemets, de l'eau. Alors, encore faut-il qu'il y en ait. Et ce qu'il ne faut pas s'imaginer, on passera à la pétrothermale peut-être après avec Mme Loupy. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que quand on parle d'eau souterraine, ce n'est pas des lacs souterrains.
Non. Non, c'est l'eau qui est présente dans l'interstice de la roche. Donc, ça dépendra du type de roche, mais on a peut-être une porosité, donc un pourcentage de vide dans la roche, peut-être dans un granit seulement de 2-3%, peut-être dans d'autres types de roches, peut-être 10-15%. Et donc c'est l'eau présente dans ces roches-là, dans ces vides qu'on va essayer d'extraire. Et l'eau, elle est présente partout en profondeur. On a les lacs en surface qui nous amènent une sorte de charge en surface, l'eau va s'infiltrer. Et puis sur des longues périodes, l'eau s'infiltre plus ou moins partout. Il y a des roches totalement sèches en profondeur, on n'en trouve pas. Par contre, ce qu'on va trouver, c'est des roches très peu perméables, où vous pouvez faire un tunnel à travers ces roches, vu que l'eau ne peut pas circuler, et rien ne va s'écouler de ces roches-là. Mais ça ne veut pas dire que l'eau n'est pas présente. Donc le problème, ce n'est pas vraiment l'eau, c'est vraiment cette perméabilité. D'où ces systèmes pétrothermaux, hydrothermaux, peut-être.
Exactement. Oui, justement, là, on a parlé de géothermie hydrothermale, c'est-à-dire que là où on va exploiter l'eau et faire remonter l'eau qui est présente sous la surface. Et il y a une autre chose, c'est la géothermie pétrothermale, que Nicole Loupy va nous expliquer.
Oui, avec plaisir. Effectivement, la ressource, c'est la chaleur. Après, on a effectivement besoin d'un moyen de transporter cette chaleur qui est en profondeur jusqu'à la surface. Et le vecteur idéal, c'est l'eau. Donc, on a effectivement des systèmes qui ne permettent pas à l'eau de circuler dans le sous-sol. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver un moyen mécanique de faire circuler cette eau en profondeur. Donc, la chaleur est dans le sous-sol, on fore un puits, on injecte de l'eau et on doit créer des vecteurs de transport pour cette eau qui va alors capter la chaleur de la roche et qui va aller faire son petit bonhomme de chemin jusqu'à un deuxième puits par lequel elle va retourner à la surface. Donc on a un système fermé, mais on a créé artificiellement ces passages pour que l'eau puisse aller d'un point où on l'injecte, récupérer la chaleur et retourner en surface.
Ici, on injecte de l'eau et on la récupère.
Elle se réchauffe. Elle traverse la roche, capte les calories jusqu'à un deuxième puits où elle retourne à la surface.
Voilà. Et après, on va l'utiliser pour la passer dans une turbine, par exemple.
Oui, enfin, un échangeur de chaleur, effectivement. Ouais. Où, c'est un circuit fermé, donc cette eau, après, est réinjectée dans le premier puits, et puis elle tourne comme ça en boucle. Et en surface, donc, on a un échangeur de chaleur qui va capter les calories de cette eau, qui sera alors refroidie, réinjectée pour être échauffée dans le sous-sol.
Voilà. Alors, vous avez remarqué que Mme Loupy a parlé de créer ces espaces qui manquent. Et c'est là qu'il y a le gros problème.
C'est là qu'il y a un challenge, effectivement, parce qu'on a des moyens qui ont été utilisés dans l'exploitation d'énergie depuis très longtemps. Mais effectivement, la façon qu'on a pour créer ces moyens, pour donner ces moyens à cette eau de circuler dans le sous-sol, c'est qu'il faut fracturer la roche. Donc, la façon dont ça se fait dans la géothermie, c'est qu'on injecte de l'eau froide à très forte pression, plus forte que la roche peut contenir, et la roche se fracture. Et ça fait vraiment des passages, vraiment des micro-fissures, ou même voire plus, qui permettent à l'eau, effectivement, de se frayer un chemin entre les deux puits.
Le problème, c'est que c'est la formation de ces fractures, donc l'éclatement, peut s'étendre.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Le sous-sol est dynamique quand même, même si... s'il y a une histoire géologique qui fait qu'on a des contextes dans le sous-sol qui sont plus ou moins stables ou qui peuvent justement être réactivées par ces fortes pressions qu'on applique dans le sous-sol. Donc on a peut-être aussi des failles qui jusqu'à présent étaient un peu dormantes, ne participaient pas à rien, qui soudain se retrouvent un petit peu bousculées par ces changements de pression. Donc il y a aussi ça qui fait que ça peut aboutir à des tremblements de terre, effectivement.
Voilà, donc on résume rapidement, hein. La géothermie de surface, dans les tunnels, autour des maisons, un tout petit peu en dessous des maisons, ok, ça marche bien, ça crée pas de tremblement de terre, contrairement à ce que certaines personnes pensent encore, maintenant, etc. Voilà. Ensuite, le plus profond, d'abord pour aller chercher de l'eau. Alors, souvent ici, on est à quelques centaines, voire 1000-1500 mètres pour aller chercher vraiment de l'eau qui existe en bas, ou cette pétrothermale qui implique de descendre où la roche est très très chaude. Là, on fait descendre de l'eau, elle se réchauffe, elle remonte, elle passe dans une turbine. Je vous donne un petit exemple, notamment de ça. J'ai eu la chance en septembre dernier de me rendre, pour autre chose d'ailleurs, pour le travail en Guadeloupe. Il y a une usine qui s'appelle, qui est un lieu qui porte bien son nom d'ailleurs, qui s'appelle Bouillante, qui est juste en dessous du volcan La Soufrière. Et là, il y a une usine, hydrothermale, en fait, qui utilise l'eau. Ils vont chercher l'eau. Ils ont de la chance d'avoir de l'eau à 1500 mètres d'altitude à 270 degrés. Elle fait 270 degrés, mais c'est de l'eau. C'est pas de la vapeur. Pourquoi ? Parce que la pression en bas est de 25 bars, donc l'eau reste de l'eau. Il la font remonter. Et quand elle arrive en haut, elle a 170 degrés, et ce qui sort, en fait, de leur puits, c'est 80% d'eau, puis 20% quand même qui s'est transformé en vapeur. Puisque, voilà, en montant, en baissant de pression, ça se transforme en vapeur. Ils n'utilisent que la vapeur. Cette vapeur, elle est filtrée pour qu'il n'y ait pas d'éléments, de la silice, des choses comme ça, etc. Elle passe dans une turbine. Et ça fait de l'électricité. Je vous la fais courte. En gros, c'est juste ça, quoi. À part ça, pour l'instant, les 80% de ce qui sort, soit de l'eau chaude, qui est encore 170 degrés, ils la rejettent à la mer après l'avoir refroidie à moins de 36 degrés, de toute façon, parce que, voilà, refroidie avec de l'eau de mer, d'ailleurs, voilà. Actuellement, cette usine produit 6% de toute la consommation de l'île. D'ici 5 ans, parce qu'ils vont réinjecter l'eau dans les puits, etc., ce qui permet en plus d'équilibrer la pression en bas et tout ça, ils vont réutiliser l'eau. Ils vont l'utiliser pour de la réfrigération à distance, et notamment pour faire donc cette eau à 150 degrés au bout d'un moment, pour faire notamment des glaçons pour les pêcheurs. Et pour climatiser certains immeubles. Bref, et ils vont développer encore certaines choses, ce qui fait que théoriquement, dans 5 à 6 ans, cette usine, ce sera 18% de toute la... 18%, c'est énorme, de toute la consommation de l'île de la Guadeloupe. Ça veut dire qu'ils pourront fermer 2 usines électriques à charbon. Et tout ça avec de l'eau qui est rouillée, puis voilà, puis rien, sans aucun produit chimique et tout ça. Donc c'est éminemment éco.
Peut-être un commentaire par rapport à Bouillante, si je peux me permettre. C'était une des notes que j'avais faites aussi au niveau des contextes géologiques. Bouillante, ou un autre exemple typique, c'est l'Islande, peut-être vous avez entendu parler, c'est des contextes géologiques particuliers. On est à des limites de plaques tectoniques, donc on a du magmatisme, des volcans, on a toutes sortes de bonnes raisons d'avoir ces chaleurs exceptionnelles proches de la surface. Et alors, évidemment, ces pays-là, c'est les champions mondiaux de la géothermie, parce que c'est relativement facile d'accéder à la chaleur. Ensuite, il y a la géothermie qui se fait en contexte tectonique, on pourrait dire standard. Et là, peut-être pour faire l'opposition à Bouillante, il y a le bassin de Paris. Le bassin de Paris, c'est pas une lutte de plaques tectoniques, il n'y a pas de volcan à Paris, on n'est pas sur une ride médio-océanique. Et il y a une soixantaine de projets actifs depuis 40-50 années dans le bassin parisien qui chauffent des quartiers complets.
Je crois que c'est 350 000 logements à Paris qui sont chauffés par la géothermie.
Avec de la géothermie. Et là, on est dans un contexte tout à fait similaire, en tout cas au niveau des contextes tectoniques, peut-être à ce qu'on pourrait trouver en Suisse. Alors, il y a peut-être aussi quelques différences, mais dans les grandes lignes, c'est similaire. Donc, alors c'est vrai que ces exemples comme Bouillante ou l'Islande, c'est spectaculaire, et c'est particulier parce qu'ils sont sur une île, donc ils n'ont pas accès au réseau électrique européen ou des choses comme ça. Mais la géothermie, c'est aussi dans des contextes normaux, avec une utilisation tout à fait normale.
Bien sûr, ça va de soi. Ils ont de la chance. Ils ont un volcan, puis en plus, ils ont une grosse faille, comme on l'a vu là, qui passe dessous et qui permet la circulation d'eau.
Mais je pense qu'on a beaucoup de chance, nous aussi. Hein. Benoît a mentionné l'exemple du bassin de Paris, donc effectivement, qui sont dans des contextes géologiques beaucoup plus proches du nôtre. D'ailleurs, les cibles, hein, hydrothermales qu'on vise actuellement ou qu'on étudie sont les mêmes formations, sont les mêmes unités géologiques, au même âge, avec des petites variations. Mais le potentiel est là. Il suffit juste d'aller chercher. On a aussi l'exemple du bassin de Munich, hein, qui, la région de Munich qui chauffe aussi une vingtaine d'installations dans ces mêmes formations qui nourrissent aussi des collectivités entières en chaleur. Donc là, on parle de chaleur, pas d'électricité. Et ça, c'est à notre portée. C'est à notre portée du point de vue technologique, mais également en termes de coûts d'investissement et de gestion de ces choses-là. Donc, je pense que c'est important, peut-être à ce stade-là aussi, de faire la différence, entre des grands projets d'envergure très profonds qui vont amener un certain challenge. Ces projets sont nécessaires aussi parce que pour nous ici en Suisse, c'est la, je pense à Haute-Saône en particulier, c'est la géothermie de demain, pour la géothermie pour l'électricité. Donc il faut s'y pencher, il faut essayer de, c'est des projets pilotes, hein, il faut essayer de comprendre comment on peut récupérer cette énergie-là. Mais il faut aussi ne pas oublier ce qui se fait plus facilement et très couramment chez nos voisins et je l'espère bientôt chez nous, avec des installations qu'on maîtrise bien, donc l'hydrothermale à moyenne profondeur qui répond aux grands besoins qu'on a chez nous, hein, c'est la production de chaleur. Si déjà on peut remplacer une partie des énergies fossiles qu'on utilise pour la production de chaleur par de la géothermie, je dirais entre guillemets facile, donc à moindre risque, à moins profonde, ce sera déjà un sacré pas en avant.
Alors, c'est possible, on l'a vu, vous l'avez entendu. On va terminer ce petit tour de table pour se dire, mais pourtant, il y a beaucoup de gens ça fait un peu peur. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très réticents. Vous direz qu'il y a aussi des gens qui sont réticents aux éoliennes pour des raisons qu'on connaît, etc. Mais aussi pour la géothermie. Est-ce que, Olivier Hagerian, on peut savoir pourquoi ? Ça vient de quoi ?
Alors oui, donc il y a différentes raisons, hein, qui peuvent expliquer ces réticences. Hein. Il y a d'une part, bon, la réticence la plus directe, celle qui est liée au système pétrothermaux, donc à tous ces systèmes où on va fracturer la roche. Il y a tout simplement des expériences. Hein. Il y a eu un séisme à Bâle en 2006. Il y a une assimilation de ces techniques aussi à ce qui se fait, par exemple, pour l'exploitation de gaz de schiste. Hein, on parle de fracturation dans les deux cas. Donc, dans la tête des gens, c'est associé au... Enfin, le séisme de Bâle est forcément associé à ce qui se passe, par exemple, dans le centre des États-Unis, alors que bon, c'est pas du tout les mêmes raisons qui provoquent ces séismes. Donc ça, c'est lié directement à la technologie. Ensuite, il y a également des réticences qui sont liées tout simplement au fait qu'un projet de géothermie profonde, c'est une activité qui est portée par des acteurs. Hein, ça peut être des politiciens locaux, ça peut être un opérateur, un opérateur local, comme bon par exemple SIG dans le cas de Genève, mais ça peut aussi être des firmes qui arrivent d'ailleurs. Hein. C'est un consortium de différents opérateurs qui va venir dans une région, qui va exploiter la chaleur pour produire de l'électricité. Cette électricité, elle part dans le réseau et les habitants ont peut-être l'impression que ça leur profite pas, qu'ils ont les nuisances, mais sans forcément avoir les bénéfices. Donc c'est ces raisons qui font qu'on peut avoir tout d'un coup un amalgame de micro-raisons et on s'oppose à une technologie. Voilà.
On va terminer ce qu'on va appeler un petit tour de table avec l'aspect, enfin pas politique, mais peut-être l'aspect officiel, Madame Loupy. Rappelez peut-être quelle est la position de la Confédération et de l'Office fédéral de l'énergie, mais je ne parle pas de position politique, mais quelle est l'attitude de l'OFEN par rapport à la géothermie en Suisse aujourd'hui.
D'accord, très bien. En fait, la Suisse a une stratégie énergétique qui a des objectifs très clairs. On cherche à changer notre rapport avec l'énergie, donc on veut consommer moins, on veut consommer plus efficacement, que ce soit à la maison, dans les transports, dans les lieux publics. D'un autre côté, on veut aussi avoir notre indépendance énergétique, donc on veut s'éloigner un peu des énergies fossiles. On a même signé l'arrêt du nucléaire, donc on a toutes ces challenges énergétiques. En parallèle, on a une politique climatique qui vise à décarboniser le secteur de l'énergie. Donc avec tout ça, on a beaucoup de questions et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Donc une solution, c'est quand même les énergies renouvelables. Comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, en Suisse, on a quand même beaucoup de chance d'avoir accès à des énergies renouvelables. 60% de l'électricité en Suisse aujourd'hui vient des installations hydrauliques. Et la Confédération pense que la géothermie peut contribuer à changer ce paysage énergétique suisse d'un point de vue de la production d'électricité, mais aussi de la production de la chaleur. Donc la Confédération et l'OFEN supportent la géothermie profonde depuis plusieurs années déjà. En fait, l'objectif, c'est d'atteindre une maturité technologique. Donc pour ce faire, la Confédération et l'OFEN ont soutenu beaucoup de programmes de recherche, des programmes où on cherche à produire de l'innovation pour justement atteindre cette maturité technologique. Le pas naturel après la recherche, c'est justement toutes ces installations pilotes. Donc là, on va apprendre en faisant. Donc la Confédération supporte un programme de soutien aux projets pilotes et démonstrations, où là, on apprend vraiment sur le terrain, en manageant les risques, bien sûr. Et maintenant, on a beaucoup de réflexions sur comment la géothermie peut contribuer à la production énergétique de la Suisse. En 2017, on a eu un moment fort avec la votation du 21 mai où la population suisse a dit oui à la géothermie. Donc maintenant, on est tous les acteurs ensemble pour essayer d'intégrer la géothermie profonde dans le paysage énergétique suisse. À partir de là, il y a eu une refonte totale de la loi sur l'énergie et d'autres lois également qui ont abouti à l'élaboration de nouveaux instruments de soutien à la géothermie profonde, que ce soit pour la production d'électricité ou la production de chaleur. Et donc, à partir du 1er janvier dernier, donc 2018, je suis responsable de la mise en œuvre de ces instruments de soutien. Donc, pour la mise sur le marché de la géothermie. Donc là, on ne parle plus de recherche, on ne parle plus de projets de pilotes et démonstrations, on parle de contribution, de projets à la production d'électricité et de chaleur. Voilà, je pense que c'est la position de l'OFEN.
Merci. Bien, bon, ça va être à vous. Ça va être à vous et je vous propose peut-être de commencer par les questions, peut-être des questions soit de compréhension et de choses comme ça. On va peut-être rentrer dans le débat après s'il y a des précisions à apporter ou des choses comme ça. Et je vous demanderai juste une chose, je n'ai pas besoin de votre nom et votre prénom, mais si vous avez, disons, un rapport particulier d'une manière ou d'une autre avec cette technologie, de le signaler, s'il vous plaît, que les choses soient assez claires. Monsieur, attendez, je viens vers vous.
C'est gentil, merci. Quand on n'a pas la chance de disposer d'un volcan, comme c'est le cas en Suisse, la chaleur de la Terre est en fait fournie par la radioactivité, et notamment par l'uranium. Et quand on fait une installation géothermique, elle prélève la chaleur. Au bout de 25 ans, la Terre est refroidie. À ce moment-là, il faut faire un forage ailleurs pour avoir de nouveau de la chaleur. Et jusqu'à ce que la Terre soit de nouveau réchauffée, il faut au minimum 25 ans, et suivant les auteurs, ça peut aller jusqu'à 100 ans. Et à ce moment-là, les installations qu'on a faites au début ne sont plus guère utilisables. Donc, il faut vraiment faire quelque chose de nouveau. Et ça, il ne faut pas l'oublier totalement. Merci.
Qui veut répondre ?
Juste un commentaire. Effectivement, on dit toujours que la géothermie est une énergie renouvelable, et ça, c'est vraiment juste. Il faut aussi qu'elle soit durable. Donc la différence, c'est qu'effectivement, c'est dans la façon de l'exploiter. Il faut qu'on ait une politique d'exploitation de la géothermie qui fait que justement, elle dure longtemps et qu'on n'ait pas besoin d'arrêter ces installations au bout de 10 ans pour parce qu'on a pompé l'énergie du sous-sol trop rapidement. Donc il faut vraiment, et l'OFEN veille à ce que ça soit fait aussi dans les projets qu'on soutient, qu'il y ait cette attitude de durabilité dans les projets de géothermie. Voilà.
Mais pour ça, il faut connaître les endroits où c'est possible. Est-ce qu'on connaît assez bien le sous-sol de notre pays pour ça ?
Alors, non. Effectivement. Je pense que ça, c'est... Alors, je vais rebondir peut-être sur ce que disait Nicole avant, où on parlait de maturité technologique. Il y a aussi, en Suisse, on n'a pas un passé d'explorateur en termes de ressources pétrogazières, notamment. Donc, on a vraiment une très, très faible connaissance de notre sous-sol. On connaît un peu notre sous-sol, on connaît les grandes lignes. Mais on n'a pas, comme pourraient l'avoir d'autres pays, et notamment nos voisins, une connaissance détaillée de ce sous-sol. Et ça fait partie de cette montée en connaissance, de cette montée en compétence. Il faut développer la filière, il faut développer le savoir-faire, la technologie, mais il faut aussi qu'on explore. Et ça fait partie intégrante du développement de la géothermie en général, hein. C'est de vraiment se donner les moyens aussi d'aller voir ce qu'on a sous nos pieds. Ensuite, peut-être juste un commentaire par rapport à ce qui a été dit. La Terre, elle fournit sa chaleur de manière continue. Cette chaleur, elle peut être captée en profondeur à une certaine température. Autrement, cette chaleur continue son chemin vers la surface et finalement est diffusée comme ça. Je pense que le problème de la durée d'une installation, il va être lié plus à son dimensionnement. Et surtout, quand on commence à avoir des installations qui se multiplient les unes à côté des autres, c'est en particulier le cas dans le bassin de Paris, où on commence à avoir beaucoup de doublets, on appelle ça un doublet, hein, quand on a deux forages, une installation une installation géothermique comme ça, c'est en général au minimum deux puits, un puits d'injection et un puits de production. Hein, parce que pour des raisons environnementales particulièrement, on ne peut pas se permettre de rejeter une eau profonde qui va être chargée en salinité, par exemple, qui ne sera pas compatible avec un rejet en surface. On se doit de la réinjecter. Donc, on a à Paris une multiplication de ces doublets énergétiques et le challenge, il est aussi de faire en sorte que ces installations ne se court-circuitent pas les unes les autres thermiquement. Donc, je pense que le challenge du niveau de la durée, c'est ça. Et on voit d'ailleurs que sur la durée, en particulier à Paris, on a des installations qui étaient dimensionnées pour une trentaine d'années et qui, aujourd'hui, quasiment 40, 45 ans plus tard, fonctionne toujours et avec très très peu de baisse de température au niveau du réservoir.
Merci. Monsieur.
Merci. Oui, bonsoir. Alors j'aurais plusieurs questions. Je vais sélectionner déjà les deux premières. Après on verra s'il y a du temps pour en poser d'autres. La première question, c'est est-ce qu'on arrive à estimer, puisqu'il y a des projets, vous l'avez dit, à Munich et à Paris, la quantité d'énergie primaire non renouvelable injectée dans la construction, conception et l'utilisation des bassins, enfin des systèmes géothermiques à moyenne profondeur, on va dire, puisque là on parle de chaleur. Et si on arrive à comparer avec plus profond, donc haute profondeur, avec du coup une qualité énergétique ou exergétique qui du coup... le fait de faire de l'électricité, donc qui permet de faire des services beaucoup plus performants. Donc ça, ce serait la première question. Oh. Le retour
Attendez
sur
un petit instant,
énergie...
parce qu'après on va l'oublier. Énergie grise versus énergie sortie au moyen et au profond.
Alors, pour ce qui est de la comparaison moyenne profondeur, grande profondeur, je ne suis pas exactement sûr. Ce qui a été fait, c'est des comparaisons à travers les secteurs. Il y a une étude qui est sortie en 2014, je pense, financée par TEA Suisse, qui est un institut de test de nouvelles technologies, disons. Et ils ont fait un comparatif entre toutes les énergies renouvelables sur le...
sur la globalité
l'empreinte,
du bilan.
L'empreinte écologique, là, life cycle.
Bilan écologique.
Le bilan du cycle de vie, voilà, d'une installation, de sa création jusqu'à à l'arrêt de l'installation. Et la géothermie sort deuxième après l'hydroélectrique. Donc, comparer de l'éolien, par exemple, ou du solaire, l'empreinte énergétique ou le cycle de vie de cette technologie-là serait meilleur que l'éolien, meilleur que le solaire, mais viendrait après l'hydroélectrique. Une des raisons, c'est que le gros de l'empreinte, ça se fait au début, quand on fore, quand on amène l'énergie. Ensuite, enfin, on doit amener de l'énergie pour faire le forage, pour mettre le système en place. Ensuite, quand le système fonctionne, il n'y a plus grand-chose à faire. Si les choses se passent comme prévu, ce qui est le cas pour 30-40 ans dans le bassin de Paris. Donc, alors que, et on n'amène pas de combustible pendant l'exploitation. On n'a pas besoin de métaux particuliers minés en Chine ou dans des endroits particuliers. Autrement, c'est donc au niveau de l'empreinte totale, la géothermie est bonne. Pour la comparaison moyenne grande profondeur, je suis pas exactement sûr. Je ne sais pas si mes collègues ont des informations, mais ça doit être assez similaire parce que la technologie de forage, bon, alors le forage, ça prend plus de temps pour forer, ça demande un peu plus d'efforts pour aller plus profond, mais l'investissement est, entre guillemets, l'investissement écologique, ça se fait vraiment seulement au début du projet.
Toujours dans cet ordre d'idée, je vous redonne la parole pour une deuxième question, on a passé quelqu'un d'autre tout à l'heure. Toujours dans cet ordre d'idée, il y a certaines personnes qui disent, oui, mais alors c'est toujours évidemment en amont, quand on fait les forages pour la fracturation, pour faire ces fameuses failles, etc., etc., ça va remonter des boues avec des métaux lourds et des choses comme ça. C'est vrai ou pas? Qui veut répondre, monsieur Claire, madame Loupy?
En fait, effectivement... Ce qui se passe, c'est que l'eau qui va être injectée ou qui est en équilibre avec la roche va pouvoir absorber un petit peu des métaux ou des éléments qui composent cette roche. Donc là, par contre, on est en boucle fermée. Donc ce qui est capté par l'eau dans le sous-sol va remonter, mais va être réinjecté. Donc le système est fermé. S'il y a problème... C'est quand il y a vraiment des problèmes au niveau des installations de surface ou qu'il y a une fuite. Mais là, effectivement, c'est le risque et pour les personnes qui s'occupent de ces installations. On ne parle pas de problèmes pour la santé à grande échelle. Donc, c'est vraiment des petites quantités qui sont ramenées, qui sont véhiculées par l'eau sur de longues périodes de temps. Et effectivement, ça reste dans la boucle fermée jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Mais ça, effectivement, on le sait. Quand on fait le forage, on analyse l'eau, on analyse la roche. Donc déjà, on a des idées sur la composition, si potentiellement il y a des éléments qui pourraient poser problème. Et pendant l'exploitation des installations, on a un système de surveillance où il y a des échantillons qui sont pris très régulièrement, qui sont envoyés dans des laboratoires et puis qui nous permettent de prédire si oui ou non il y aura des problèmes.
Merci. Je donne une deuxième question à monsieur, puis après je vous passe la parole. Monsieur.
La deuxième question, du coup, ben, puisqu'on a des expériences entre Paris et Munich, c'est d'avoir un ordre de grandeur du prix, alors, au kilowattheure ou au terajoule, enfin, choisissez l'unité énergétique que vous voulez, par rapport à le pétrole conventionnel actuel et où... Le scénario négawatt qui consisterait à isoler les bâtiments, parce que finalement, on cherche à faire de la chaleur pour chauffer des passoires énergétiques un petit peu à l'heure actuelle, alors qu'avec un taux de renouvellement beaucoup trop faible du parc immobilier actuellement. Et à un moment donné, alors ça c'est assez du concret, quoi. Il y a une personne qui doit rénover son bâtiment. Est-ce qu'il a intérêt à attendre que la géothermie ait fait suffisamment de progrès puis de se repiquer dessus ou isoler son bâtiment?
Je peux répondre à la deuxième partie de la question.
Puis après, j'aimerais entendre Olivier là-dessus aussi.
Il y a un couplage avec la rénovation des bâtiments, parce que il y a 50 ans, peut-être, c'est pas vraiment mon domaine de recherche. J'en ai parlé la semaine passée avec un chauffagiste, donc j'ai un petit peu appris ces choses-là. Il y a 50 ans, quand on prévoyait un chauffage pour une maison, on a typiquement une chaudière à mazout, on brûle du mazout, on a peut-être une flamme à 500-600 degrés. Avec cette eau-là, on chauffait de l'eau et on distribuait l'eau dans la maison à 90 degrés typiquement. On a des tout petits radiateurs, je ne sais pas s'il y en a ici, vu qu'on est dans une vieille salle, mais un tout petit radiateur pour chauffer une salle. Et pour ça, il fallait de l'eau très chaude dans le système de chauffage. Avec les nouveaux standards d'isolation et de chauffage des maisons, standards minéraux, choses comme ça, On a des planchers chauffants, on a des radiateurs beaucoup plus grands qui permettent d'avoir de l'eau de chauffage qui est beaucoup moins chaude, peut-être 30 degrés. Et ça donne c'est une grande opportunité pour la géothermie, cette géothermie de basse profondeur, parce qu'on a une ressource dans le sous-sol à 12, 15 degrés, et avec une pompe à chaleur, c'est relativement facile de la passer à 30, 35 degrés. Alors que de la passer à 90 degrés, c'est pas du tout économique et rentable. Donc en fait, le développement de cette isolation des bâtiments, du chauffage et tout ça, va favoriser cette géothermie de basse profondeur. Le collègue là faisait juste peut-être c'est une image qui m'est restée parce que il me disait une maison Minergie un standard, je crois Minergie P, la puissance énergétique qu'elle a besoin pour se chauffer, ça correspond à un four à raclette. Donc il disait si vous êtes dans une maison Minergie P, vous faites une raclette avec des copains. Vous avez trop chaud d'habitude. Donc, ces maisons-là n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie et cette énergie-là peut facilement se récupérer justement avec de la géothermie basse profondeur. Pour ce qui est du coût de l'électricité, tout ça,
ouais.
Peut-être.
Comparaison kilowattheure, prix du kilowatt ou kilowattheure.
Bah, je peux juste dire entre énergie renouvelable en fait. Donc ouais. Effectivement, la géothermie, pour le moment, quand on parle d'électricité, on est à peu près à 35 centimes par kilowattheure. Mais. Ce qu'il faut voir, c'est que si on arrive à coupler, et on peut coupler l'électricité et la production de chaleur, donc toute l'énergie qui n'a pas été utilisée pour faire de l'électricité, on peut l'utiliser pour la chaleur, et là, on tombe en dessous entre 15 et 20, même autour de 15. Donc là, on est compétitif avec l'éolien, on est compétitif avec d'autres énergies renouvelables.
Vous avez des chiffres par rapport à, par exemple, l'hydroélectrique ou le nucléaire ? Parce que je ne les ai pas en tête.
Donc c'est la fameuse étude faite par Théa Suisse qui est publique et que je recommande de la télécharger parce qu'on y apprend beaucoup de choses sur la géothermie plus sur l'énergie renouvelable en général. Donc je disais géothermie sans exploitation de géothermie. Donc pour l'électricité on est à 35 centimes par kilowattheure. Si on arrive à coupler on est entre 10 et 15 centimes par kilowattheure. Et donc là on a biogaz qui est à environ 8, énergie solaire qui est à 22. À peu près, donc on est déjà mieux que le solaire, et puis l'éolien qui est autour de 20 aussi. Donc là, ça change toute la donne. Si on arrive et on peut utiliser les rejets de chaleur après la production d'électricité pour les systèmes de chauffage.
À part ça, vous évoquez l'isolation des bâtiments, mais là, vous disiez on cherche à chauffer des bâtiments, etc., mais avec n'importe quelle énergie, on cherche à chauffer des bâtiments.
Il y a aussi...
Ça va de soi que c'est mieux d'isoler son bâtiment, quoi.
Je pense que c'est pas un choix, faut faire les deux.
Ça va de soi, ouais. Bien sûr.
Mais par contre, ce qu'on a avec les énergies renouvelables, qu'on n'a pas par exemple avec le fossile, c'est la volatilité. Donc les prix sont un petit peu plus stables quand même que si on est complètement dépendant du pétrole et du gaz.
Comme petite remarque, on a parlé de Minergie P, etc. Pour Igor, c'est un bon sujet de prochain café scientifique, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces labels, quand même. Monsieur, oui, on enchaîne avec la chemise claire. Puis après, le monsieur derrière vous.
Vous avez évoqué déjà une certaine chose. Je voulais juste savoir quels sont les risques associés avec... s'il y aurait d'éventuels risques associés avec la géothermie en profondeur.
Alors, oui, les risques, ils sont divers. Alors, on les associe souvent à la profondeur, mais finalement, ils sont à mettre en relief avec le lieu et le contexte géologique dans lequel on va faire le forage. Pour tout ce qui est moyenne profondeur, le risque, il est principalement environnemental. Donc, mais ça, c'est des choses. Quand je veux parler des risques, mais c'est des choses qu'on gère et qu'on veille surtout à ce qu'ils soient identifiés et que les mesures de mitigation ou de prise en charge de ces risques soient là. Donc, environnemental au niveau des interactions entre les différents niveaux aquifères, les échanges d'eau entre les eaux du sous-sol et les eaux de surface, l'importance et la nécessité, l'obligation de rejeter l'eau qu'on a pompée dans son milieu d'origine. On peut même pas imaginer de pomper de l'eau dans un certain aquifère, donc dans une certaine couche perméable, et de la rejeter dans une autre. Il faut que ce soit rejeté dans le même milieu. Ensuite, quand on est dans du plus profond, on va commencer à parler de risques sismiques, de risques de liés à la voilà, les tremblements de terre que ça peut générer, qui, eux, peuvent alors, également dépendre principalement du lieu où on fore. Est-ce qu'on est dans une zone où l'activité sismique est plus intense, où le risque sismique est plus important qu'une autre ? Et puis de la technologie qu'on va déployer là-dedans. On peut imaginer que si le massif, même profond, est suffisamment fracturé naturellement, il n'y ait pas forcément besoin que les niveaux de fracturation hydraulique ou la stimulation soient très poussés. Mais ça fait partie des risques principaux qui doivent être considérés, qui doivent être pris en compte.
C'était, semble-t-il, l'avoir fait à Bâle, d'ailleurs, de forer dans une région particulièrement sismique, naturellement.
Alors, oui, Bâle fait partie des zones sismiquement les plus actives en Suisse.
Oui, Nicole.
Je voudrais juste ajouter, justement, il y a les risques des projets, mais d'un point de vue plus général, les barrières qu'il y a au développement de la géothermie, d'un point de vue d'un porteur de projet, et c'est là-dessus qu'on travaille aussi à l'OFEN, c'est quand on cherche un système hydrothermal, c'est déjà de le trouver. Donc, Nicolas a mentionné le fait qu'on connaît très mal notre sous-sol. Donc, le premier risque, c'est de ne pas trouver ce qu'on cherche. Alors, dans le cas du pétrothermal, la chaleur, elle y est, mais effectivement, c'est de pouvoir faire circuler l'eau. Donc, dans le cas hydrothermal, c'est de trouver l'eau et qu'elle ait un débit suffisant en surface pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, il y a la température qui est importante, mais il y a aussi le débit. Donc, ça, c'est une première barrière au développement de la géothermie. La deuxième barrière, d'un point de vue porteur de projet, c'est peut-être moins intéressant pour le public, mais il faut quand même le savoir, c'est les risques économiques. Il y a 70% des coûts des installations géothermiques qui sont liés au sous-sol. Donc, on ne connaît pas très bien notre sous-sol. Ça coûte cher de le développer. Donc ça, ce sont les barrières au développement de la géothermie. C'est là-dessus, c'est sur ces deux leviers en particulier qu'on travaille à l'Office fédéral de l'énergie pour abaisser ces barrières. Donc on fait la promotion de l'exploration de notre sous-sol et puis on aide aussi financièrement à se lancer, en fait. Voilà.
Juste avant de passer la parole à monsieur, Olivier Echderian, là j'ai l'impression d'en discuter, voilà... les gens sont-ils prêts à accepter ? Il y a plein de questions qui se posent, mais est-ce que ça a marché ? Pourquoi ? Quelles conséquences ça peut avoir ? On se pose les mêmes questions pour l'éolien, il y a des, bah, évidemment les riverains sont pas forcément contents, etc. Comment il faudrait faire en fait pour convaincre les gens que comment dire que malgré quelques inconvénients, je dis bien inconvénients, il est mieux de passer aux énergies renouvelables que de continuer, par exemple, à utiliser des énergies fossiles. Est-ce qu'il y a un moyen ?
Alors, un moyen. Alors, en bon, on n'a pas une recette toute faite, mais bon, il y a quand même quelques pistes. Alors, bon, ce qu'il faut voir, c'est que, en tout cas en Europe, dans la grande majorité des cas et vraiment dans la plupart des endroits, les gens ont conscience qu'il faut passer au renouvelable. Après, la question, c'est sous quelle forme, quel type d'énergie est renouvelable. Maintenant, si on retourne sur la géothermie et si on regarde les régions où la géothermie s'est développée, je pense Bassin parisien, c'est un peu particulier. Il n'y a pas vraiment eu discussion. Ça s'est fait il y a une quarantaine d'années.
C'est la France, quoi.
C'est la France. Ça a été planifié par en haut. Il n'y a pas eu de problème. Tout s'est très bien passé. Les gens, ils sont contents. Je pense qu'ils n'ont même pas vraiment conscience.
Je pense qu'ils sont chauffés à la géothermie.
Ensuite, si on regarde les autres cas, si on regarde par exemple l'Allemagne, Munich, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un portage politique assez fort hein, de la géothermie. C'est quelque chose qui a été mis en débat, c'est un choix qui a été fait publiquement, qui a été délibéré. Et les gens acceptent, y compris certains inconvénients. Hein. On a eu aussi des secousses en Bavière. Il y a eu évidemment des réactions, mais beaucoup moins épidermiques, parce qu'on a aussi beaucoup d'installations qui marchent. Donc, bon, c'est là que c'est curieux, hein, parce que par exemple, si on regarde vraiment le sud de l'Allemagne, on planifie une nouvelle installation géothermique, il n'y a pas ou peu d'opposition, alors que dans le même pays, dans le bassin rhénan, là, on a une opposition très très forte. Donc je pense que effectivement, les acteurs qui sont impliqués dans le développement de la géothermie jouent un rôle important. La manière dont les projets sont présentés, portés, jouent un rôle important. On le voit aussi en Suisse, hein, quelque part. Il y a eu le projet de Saint-Gall dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui a également provoqué un séisme, mais parce que le forage, enfin, on a foré dans une poche de gaz et il a fallu réinjecter de l'eau pour empêcher le gaz de sortir. Donc vous m'arrêtez, hein, si techniquement c'est pas tout à fait exact. Et puis contrairement à ce qui a été présenté dans la presse, souvent, hein, le projet ne s'est pas arrêté là, hein, ne s'est pas arrêté après le séisme, hein, qui était d'une magnitude comparable à celui de Bâle. Mais une fois que la situation était de nouveau sous contrôle, on a recommencé à forer jusqu'à la profondeur prévue, mais on n'a tout simplement pas trouvé un débit d'eau suffisant pour mener le projet à bien. Et bon, nous, on a travaillé un peu sur le cas de Saint-Gall pour comprendre ce qui s'était passé. Les gens, après, y compris après le séisme, certains voulaient que le projet se poursuive et pensaient qu'il avait été arrêté à cause de ça. Ils disaient, mais non, continuez. Et puis, il a fallu leur expliquer, au contraire, que c'était parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez d'eau. Et là aussi, on a eu un projet qui a été porté par la ville. C'était un projet qui a été réalisé par la régie municipale et la population a pu voter. Il avait été approuvé à 80%, je pense, ou 70% de la population.
Politique, autorité locale, avant de vous donner la parole, monsieur. C'est Nicolas Clerc. Nicolas Clerc, à Genève, justement, il y a quelque chose qui vient de commencer. Les autorités portent le projet. Il y a eu vote populaire. Expliquez-nous un peu tout ça.
Alors oui, ça vient pas de commencer, non, le forage, on est dans le cours du premier forage, mais c'est le fruit déjà d'une longue procédure. Alors typiquement, là, ce qui vient d'être dit, c'est effectivement la clé souvent du succès, c'est l'aspect communication sur les projets, sur ce qui se fait. Il faut une adhésion aussi de la population à ce qui se fait, et puis c'est important aussi d'être transparent là-dessus. Et le fait que ce soit aussi porté par les autorités permet aussi d'agir différemment sur ces points-là. À Genève, c'est également, on est un peu dans le cas de figure bavarois, où finalement c'est les autorités qui lancent le truc, donc avec de l'argent public, hein, c'est les services industriels de Genève qui sont finalement le bras armé de l'État qui sont chargés de financer et de lancer, enfin de réaliser toute la partie exploration et de ce programme-là. Et puis donc justement donc le ce que je veux dire pardon à Genève, alors on est aussi soucieux de bien expliquer ce qu'on fait et d'aller doucement, en fait. Donc peut-être pour simplifier un peu les choses, on a commencé avec une partie prospective, finalement, où il a fallu, donc on retombe un peu sur ce que je disais avant, où le mettre un peu en forme ce qu'on connaissait de ce bassin. Ça s'est passé par des travaux académiques qui ont eu pour mission de rassembler les connaissances, de remettre au goût du jour ce qu'on connaissait en termes de données, de prendre en compte aussi les nouvelles, des nouvelles acquisitions. Donc on parle surtout de données géophysiques, qui sont de la sismique. C'est une méthode d'échographie du sous-sol qui est non invasive, qui est héritée de l'industrie pétrolière. Et puis tout ça pour essayer de cartographier un petit peu en 3D ce qu'on a sous nos pieds. Ça, c'est la partie prospection, on va dire. Maintenant, on rentre dans une phase plus explorative où on a mis les points sur une carte. On s'est dit, OK, bon, là, il y a un intérêt à aller voir. Là, la cible est intéressante. Il faut qu'on aille ensuite voir in situ, mesurer qu'est-ce que les réservoirs peuvent nous donner à cet endroit-là. Et c'est là où on commence à faire maintenant les premiers forages d'exploration. Donc, nouveau, on parle de forages d'exploration. C'est pas des forages qui ont une vocation à être mis en production et qui vont justement aller vérifier les cibles identifiées dans différents contextes tectoniques, différents contextes du bassin.
Et la population de Sadigny, comment est-elle tenue au courant ?
Alors, il y a il y a beaucoup de communication, il y a des portes ouvertes, il y a des visites, ça c'est tout ce qui est lié au forage. Il y a des tout-ménages qui circulent, on organise toutes sortes d'événements liés au programme en soi, mais ça depuis déjà, le programme a commencé en 2014, et dès 2014, on informe, on essaye de maintenir la population informée de ce qui se passe, que ce soit au niveau de l'acquisition sismique ou des forages en cours. Et c'est une partie importante de l'énergie qu'on déploie là-dedans, mais qui est ultra importante. Et qui porte ses fruits.
On va ajouter ça à l'énergie grise utilisée pour le projet. Je vous passe enfin la parole, monsieur, tout au fond, là-bas.
Oui, excusez-moi, c'est à propos des forages, justement, à Neuchâtel. C'est un peu compliqué parce que quand je m'y étais intéressé, on m'avait dit « Oh, mais il y a un manteau marneux en dessous de Neuchâtel qui rend impossible tout forage parce qu'on risque de polluer les nappes phréatiques. » Alors, je sais pas, il doit y avoir des nappes phréatiques aussi à d'autres endroits et puis elles ont dû être percées aussi. Mais bon, il faudrait peut-être que nos autorités soient informées par les spécialistes puis qu'on puisse le faire. Puis autre question, si on a un jardin trop petit puis qu'on doit faire des trous obliques pour éviter ce manteau marneux éventuellement, juridiquement, ça représente quoi comme difficulté? Est-ce qu'on a déjà résolu les questions? Parce que le sous-sol appartient à celui qui a la terre de dessus, pas au voisin.
On va peut-être commencer par à qui appartient le sous-sol, parce que ça c'est assez intéressant. Je pense que Nicolas, vous allez pouvoir répondre.
Oui,
à
alors
ça.
De nouveau, je pense que c'est pareil dans tous les cantons, mais le sous-sol appartient au domaine public, hein, il appartient à l'État et ses ressources. Maintenant, on a une notion de surface utile. Alors, elle n'est pas définie, il n'y a pas un chiffre qui définit la profondeur utile, qui, elle, appartient au propriétaire de la parcelle concernée. Et cette notion, ça, c'est une question qui se pose, effectivement. La notion de profondeur utile, elle est souvent rattachée
rattachée à l'agriculture au départ.
Oui, mais aussi au sous-sol, aux caves, aux garages souterrains qui vont être sur une parcelle. Donc, on se représente assez bien ce que ça peut être comme utilité. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un, un particulier qui veut avoir une sonde géothermique dans son jardin, à 300 mètres, est-ce qu'on dit qu'on est encore dans sa surface utile? Parce que oui, il a une utilité à cette profondeur-là, enfin dans sa profondeur utile, pardon, ou est-ce qu'on est dans le domaine public? Alors, dans ces cas-là, effectivement, on est dans le domaine public. Donc, de ce point de vue-là, on peut très bien imaginer d'avoir des forages déviés qui passent sous la parcelle du voisin. Mais c'est toujours un petit peu du cas par cas. Disons qu'il faudrait pas que le forage passe sous la parcelle du voisin, en dessous d'une certaine profondeur qu'on pourrait définir comme utile. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Mais ça fait partie des flous juridiques qui doivent être adressés avec cette nouvelle vision qu'on a de notre sous-sol et de son utilisation.
La problématique est la même pour l'espace aérien. Quand un avion passe à 10 000 mètres en-dessus de votre maison, il est pas chez vous. Parce que, voilà. Mais il y a aussi une notion de hauteur utile qui est très 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 floue. On parlait, monsieur parlait justement de traverser une nappe phréatique. Imaginons qu'on veut descendre ici à 6 km et qu'à 3 km ici se trouve, ou à 300 mètres de profondeur ici se trouve une nappe phréatique qui est utilisée pour alimenter cette ville-là. Est-ce que c'est dangereux de devoir traverser une nappe phréatique? Qui veut répondre? Benoît.
Alors non, c'est pas dangereux. Il y a des technologies qui permettent de le faire. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est pour les forages profonds, on va télescoper les forages. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire en forêt en grand diamètre jusqu'à une certaine profondeur. On va ensuite s'isoler de l'environnement en mettant des tubages en acier qui sont cimentés. Et puis ensuite, on va continuer avec un diamètre plus petit, etc. Puis on peut faire 3, 4, 5 sections télescopées. Et puis on va choisir ces moments où on télescope selon justement la présence d'aquifères ou de couches particulières qu'on veut protéger. Donc typiquement, si on traverse un aquifère qui est sensible, on va peut-être forer de manière avec des pressions de boue, des conditions de forage qui fait que notre fluide de forage va pas rentrer dans l'aquifère, mais c'est le fluide de l'aquifère qui va sortir, donc on va pas pouvoir polluer l'aquifère. Ensuite, on va finir cette section-là, on va tuber la section, l'aquifère sera protégé et on continue. Donc,
ça. Peut-être pas d'accord.
Pratiquement, il y a des solutions pour forer de ce genre de puits profond sans sans mettre les aquifères en danger. Alors il y a toujours un risque, comme dans toute opération d'ingénierie. On peut avoir des problèmes de cimentation des tubages. Bon, donc là, il y a tous des processus de contrôle de qualité qui doivent se faire pour s'assurer que les cimentations sont bien faites. Après, il y a peut-être la question, je ne sais pas si votre question était plutôt associée aux sondes géothermiques, où là, c'est un type de forage beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. On ne va pas commencer à télescoper, à tuber pour une sonde géothermique. Donc là, c'est des forages qui sont faits en un seul coup, plus ou moins, sur 150, 200, 300 mètres. Et là, c'est pour ça qu'il y a des cartes. Chaque canton a établi des cartes. Selon les conditions du sous-sol, vous pourrez ou vous ne pourrez pas faire une sonde géothermique, parce que le type de forage pour une sonde géothermique ne vous permet pas de vous isoler des aquifères, etc. Donc, pour des questions de protection des eaux souterraines, il y a des zones où on peut, il y a des zones où on ne peut pas.
Merci.
Effectivement, il faut forer à travers une nappe, on sait le faire. Hein, il n'y a pas de souci. Il faut peut-être distinguer ce qui est nappe phréatique. Alors, des nappes, il y en a partout, hein, sous nos pieds, qu'elles soient profondes ou moins profondes. Après, peut-être qu'on peut faire la distinction entre les nappes qui sont ce qu'elles sont et celles qui sont réservées pour l'eau potable, donc qui sont un petit peu plus protégées et qui sont un petit peu plus susceptibles, enfin, auxquelles il faut faire attention. Après, ça dépend aussi de la législation. Il y a des endroits où on décide de ne pas forer au travers des nappes stratégiques, et puis il y a des endroits où ça se fait. On produit de la géothermie dans des nappes d'eau de boisson aussi. Ça existe aussi. C'est du circuit fermé, ça fonctionne. Après, l'autre point qui a été amené par Benoît, qui est important, et c'est aussi là-dessus qu'on travaille, en tout cas du côté genevois, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on est mieux de traverser une nappe de manière ponctuelle avec un forage un peu plus important qui est géré et qui est planifié de manière un peu plus solide, mais avec un forage unique, plutôt que d'autoriser des champs de sondes qui sont des cinquantaines de sondes qui vont descendre à 200, 300 mètres, c'est 50 fois plus de chances de perturber le milieu. Et d'autant plus, comme ça a été dit, en général, les sondes géothermiques sont faites avec des moyens beaucoup plus légers, avec une planification beaucoup plus légère aussi. Donc finalement, le risque environnemental de polluer une nappe ou de la mettre en communication avec une autre, il est beaucoup plus important avec des sondes, des champs de sondes, que des productions ponctuelles. D'où aussi l'idée de favoriser la géothermie de faible profondeur, la géothermie sur nappe plutôt que la géothermie en système fermé, qui d'autant plus est beaucoup plus rentable économiquement.
Monsieur a demandé la parole.
Merci. Je souhaiterais savoir un peu plus en détail ce qui s'est passé exactement en région baloise. Bâle est connue comme une zone relativement instable du point de vue sismique. Idem pour le Valais. Il y a une vingtaine d'années, il y a un rapport Katanos qui était sorti, justement sur les risques à long terme et l'importance que représente un séisme majeur. Et ma question en particulier est de savoir si, justement, en provoquant des petits séismes de façon répétée, on ne diminue pas le risque d'un séisme majeur.
Donc là, ça commence à être c'est des questions qui touchent à la recherche, vraiment. Donc, on n'aura pas toutes les réponses ce soir. Peut-être petite explication pour le projet de Bâle. Alors, pourquoi on a foré à Bâle, alors que c'est une zone qui est connue sismiquement, active. C'est multifactoriel quand on choisit de forer un endroit. Et à ma connaissance, une des raisons pour laquelle ça a été foré à Bâle, c'est qu'il y avait un réseau de chauffage qui était disponible et un sol qui était, enfin, une parcelle disponible aussi pour faire ce projet. Et puis, il y avait des investisseurs qui sont les services naturels de Bâle, les différents de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, etc., différents investisseurs qui étaient présents sur la région. Donc, le choix de Bâle, ça a été principalement pour ces aspects-là, à ma connaissance, et pas pour des questions géologiques. Ensuite, à Bâle, on a appliqué à... Il y a un projet phare, un projet européen qui s'appelle le projet de Soulsous-Forêt, qui est en Alsace, au nord de Strasbourg, qui a commencé dans les années 70-80. Et puis maintenant, on a une centrale qui tourne à Souls. Et c'est un projet qui est aussi dans une structure qu'on appelle le Graben-Burin, qui est géologiquement dans une structure similaire que celle de Bâle. Et le projet de Bâle s'est beaucoup inspiré de ce qui s'est fait à Souls. Donc on a plus ou moins utilisé les mêmes types de géométrie des forages. On a voulu appliquer le même genre de stimulation, donc de traitement des roches, en s'inspirant beaucoup de ce qui s'est fait à Souls. Et les gens étaient assez confiants, parce qu'à Souls, ça a quand même bien marché. Et ils ont voulu appliquer ça de manière assez directe à Bâle. Et le séisme est venu un peu comme une surprise, dans ce sens-là. Parce qu'à Souls, il y a eu des petits séismes, mais rien qui a gêné les gens. Ceci dit, à Bâle, alors, ça a surpris les gens, parce que ça... Peut-être au niveau communication, ça n'a pas été communiqué de manière correcte, mais au niveau des dégâts et tout ça, ça a été minime. Il n'y a pas eu d'impact sur la vie des Balois. Bâle est toujours debout.
Deuxième partie de la question de monsieur, est-ce qu'à long terme, le fait de créer des micro-séismes pour fracturer la roche, en l'occurrence pour stimuler la roche, quand on veut être poli, est-ce que ça peut pas finalement stabiliser le tout et empêcher et éviter qu'un jour il y ait un plus gros séisme?
Je pense qu'on n'est pas capable de le dire, franchement. Il faut savoir quand on fait ces stimulations, donc on fait glisser les fractures, si vous imaginez, excusez-moi, je vais poser le micro. Si vous mettez vos mains l'une contre les autres, et puis vous avez les doigts qui sont en quinconce comme ça, vous avez une fracture qui est bien fermée, et puis vous la glissez, vos doigts vont chevaucher, et en chevauchant, la fracture s'ouvre. C'est lié à la géométrie de la fracture. Donc le principe de création de perméabilité, c'est un des principes, disons, à évoquer, c'est qu'on fait glisser les fractures vont s'ouvrir en glissant, et puis ça permet de faire circuler les fluides plus facilement. Et quand on stimule un réservoir comme à Bâle ou comme à Soultz, on s'est rendu compte qu'une partie de ces glissements se font de manière sismique, c'est-à-dire ils émettent de l'énergie sismique, mais peut-être, d'après les calculs qu'on a pu faire, 95 à 98% des glissements se font de manière non sismique. Donc les fractures glissent, mais plutôt de glisser de manière soudaine et d'émettre de l'énergie sismique, elle glisse tranquillement et il n'y a pas d'énergie sismique, alors qu'il y a probablement un gain de perméabilité. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, au niveau de est-ce qu'on va réduire les séismes et tout ça, donc dans le volume du réservoir, effectivement, on va dissiper de l'énergie qui est stockée, mais cette énergie, elle va... comment, ce qu'on dissipe dans le réservoir va se propager à l'extérieur du réservoir, d'une certaine manière. Alors une partie va être clairement dissipée, mais une partie va se reporter plus loin. C'est comme si vous faites un tunnel, c'est un petit peu un parallèle qu'on peut faire. Si on fait un tunnel sous terre, on va enlever une partie de la roche. Et la roche qui était là, qu'on a enlevée, elle soutenait des contraintes, maintenant elle ne les soutient plus. C'est la roche qui est autour qui va soutenir ces contraintes. Donc dans le réservoir, si on relâche les contraintes à l'intérieur du réservoir, les roches qui sont autour du réservoir vont soutenir ces contraintes. Et autour du réservoir, il peut avoir éventuellement des failles. Et alors, peut-être dans un certain volume, on va relâcher les contraintes, on va limiter le risque sismique, mais on va peut-être reporter le problème plus loin. Mais dans le détail, on le sait pas exactement. C'est pour ça qu'on a fait, par exemple, cette expérience au Grimsel, où on fait une expérience de stimulation dans un volume d'à peu près 30 mètres par 30 mètres par 30 mètres, relativement petit, où on a des tunnels tout autour, on peut mettre beaucoup de capteurs. Et puis, on a fait 12 stimulations avec des techniques différentes. Et puis on a eu, alors on peut pas donner encore beaucoup de résultats parce que maintenant on a beaucoup de données et puis on doit les travailler. On a 606 et 10 doctorants qui travaillent là-dessus. Mais les premières observations, on a eu une stimulation où on a multiplié la capacité de l'eau de circuler par un facteur 1000 et quasi pas de sismicité associée à ça. Et puis une autre stimulation, c'est la stimulation qui a fait le plus de sismicité et puis on a une augmentation de perméabilité de peut-être x2 ou x3. Beaucoup plus faible. Et puis, pour l'instant, de vous pouvoir vraiment détailler pourquoi, dans ce cas-là, ça fonctionnait comme ça, et dans ce cas, on n'est pas encore exactement capable. Donc, il y a encore du travail à faire.
C'est vraiment... La recherche a encore beaucoup de travail à faire sur le sous-sol. Donc, on va bientôt mieux connaître Mars que notre sous-sol, je pense. Une autre question? Oui, monsieur.
Vous avez mentionné, donc, en fait, par rapport à... On a discuté un petit peu des coûts, mais, en fait, peut-être que je saute un peu sur une conclusion, mais il semble qu'il y a des coûts assez importants associés, en fait, avec l'exploration. Donc, vous avez parlé que, d'abord, c'est une technologie en développement et on ne connaît pas très bien notre sous-sol, mais, donc, les investissements sont assez importants, je présume, en fait, pour démarrer cette chose. Donc, quels sont, en fait, les acteurs principaux là-dedans et quels sont, peut-être, les coûts associés à cela?
Donc les nouveaux instruments de soutien qui ont été mis en place par dans le cadre de la nouvelle loi sur l'énergie, aussi dans la loi sur les réductions des émissions de CO2, prévoient que l'OFEN, la Confédération, devient un partenaire des projets. Donc les projets qui ont pour but la production d'électricité ou la production de la chaleur peuvent venir à l'Office fédéral de l'énergie et demander un soutien. Donc la philosophie du soutien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de baisser les barrières au développement de la géothermie. Donc on va prendre sur nous, on va manager les risques liés au sous-sol et les risques financiers, donc La façon dont on fait ça à l'OFEN, c'est qu'effectivement, les projets sont étudiés, évalués par un groupe d'experts d'un point de vue technique, d'un point de vue durabilité, d'un point de vue conformité avec les règles cantonales, d'un point de vue tout ce qu'on peut vraiment environnemental, c'est sécurité des exploitations, du personnel. Et là, on a une contribution financière au projet pour la partie sous-sol, j'entends, parce que c'est là qu'il y a le risque, on ne subventionne pas tout ce qui est partie installation de surface, qui peut aller jusqu'à 60% des coûts d'investissement. Donc là, effectivement, on fait la promotion de l'exploration, donc avec 60% des coûts qui sont portés par la Confédération, on peut aller faire un pas plus loin dans l'innovation, dans la découverte du sous-sol, et d'un point de vue économique, bien sûr, d'avoir 60% des coûts qui sont liés aux investissements du sous-sol, ça permet aussi à des porteurs de projets ou à des institutions de se lancer, de ne plus vraiment hésiter.
Oui, juste une petite note aussi. Il faut aussi voir ça de manière dégressive finalement, parce que cette exploration, il faut qu'on le fasse, hein, si on veut développer cette ressource. Elle va bénéficier aussi au projet suivant. Pareil pour tout ce qui est technologie, monter en compétences des porteurs de projets, des bureaux locaux. Enfin, ça génère toutes sortes de d'amélioration, de savoir-faire et autres qui sera bénéfique pour la suite aussi. Donc effectivement, il y a des investissements de départ qui sont pas négligeables, mais qui finiront par porter leurs fruits aussi à ce niveau-là.
Oui, je vous en prie.
Oui, les critères qu'on applique pour les évaluations des projets, on demande de l'innovation, on demande que la donnée géologique qui a été acquise pour ce projet soit partagée, donc avec l'organisme de la Confédération qui est Swisstopo. Donc on est dans le partage, on est dans la découverte du sous-sol, mais pas de façon à bénéficier juste à un projet, à partager cette ressource et pour aller effectivement de l'avant au niveau de la branche, pas qu'au niveau des projets. Donc on a quand même des critères qui vont dans le sens du développement d'une branche de géothermie en Suisse.
Je m'excuse encore. Ça, c'est un élément ultra important, la transparence sur les projets, le partage des données, le partage des informations. Ça aide énormément, parce que finalement, on a des contextes qui vont localement varier un tout petit peu, mais on a quand même les grandes lignes qui sont réutilisables. Et ça, c'est vrai que quand c'est des projets qui sont portés par les entités publiques, et qu'on fait appel au mécanisme de subvention de la Confédération, donc on a aussi ce devoir de partager et de fournir la donnée, c'est ce qui permettra aussi d'aller de l'avant. Il faut que les projets privés passent par là aussi, c'est important.
Très bien, j'ai une petite dernière question à tout le monde. Oui, non ou joker? D'accord. Selon l'Office fédéral de l'énergie, je lis l'invitation, la géothermie a en Suisse un potentiel de production de 4400 gigawattheures, donc 4,4 terawattheures électriques d'ici 40 ans. Donc c'est une fois et demie Mühleberg en gros. Hein. D'ici 40 ans, on y sera? On n'y sera pas? Olivier Esderjo?
Non, mais j'espère me tromper.
Benoît Vallée?
Je pense qu'on n'y sera pas, mais on sera pas à ces chiffres-là. Mais j'espère qu'on aura essayé d'abord, vraiment essayé, pas une seule fois peut-être il faudrait essayer 5 fois, 10 fois, et puis que sur ces 10 fois on essaye, on aura peut-être 6 projets qui auront eu du succès. Et puis un projet, 6 projets qui fonctionnent, ce sera pas 4,4 terawatts.
Madame Loupy?
Je suis optimiste et réaliste, moi, donc oui. Peut-être pas à la hauteur de ce chiffre, mais on s'y rapprochera, je pense, oui.
Nicolas Clerc.
Je pense qu'on n'y sera pas, mais il faut pas lâcher. Et, Genève, on vise 20% d'énergie de production de chaleur d'origine de renouvelable pour 2035. C'est déjà un challenge. Donc, autant en production électrique, ça va être difficile, mais il faut. Je pense que pour ma conclusion, il faut vraiment continuer à chercher un peu à développer cette géothermie du futur, cette géothermie profonde et complexe. Mais il faut pas oublier qu'on peut faire aussi en attendant et en parallèle et de manière complémentaire des choses plus simples, moins profondes, moins risquées. Et tout aussi importante.
Peut-être incomplet. Donc là, vous avez parlé d'énergie électrique. Puis vraiment, ouais. L'électricité, c'est la difficulté. Parce que ça veut dire chaud, donc ça veut dire profond. Donc c'est les projets
c'est
difficiles.
C'est pour ça que j'ai posé
par contre, je pense que l'aspect chaleur, comme dit Nicolas, je pense qu'on va peut-être... Je ne sais pas quels sont les pronostics pour la chaleur au niveau de l'OFEN, mais je pense qu'on va faire mieux que ce qui est pronostiqué pour la chaleur.
Olivier Desargent.
Oui, c'était aussi pour abonder dans ce sens. Hein. Il faut aussi penser à la chaleur, parce que la chaleur, c'est aussi ce qui peut rendre la géothermie acceptable pour le plus grand nombre. La chaleur, elle est exploitée localement, elle est distribuée localement, et là, les gens voient le bénéfice.
OK. On a parlé communication tout à l'heure. Je sais, plusieurs personnes ont mis ce mot. C'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. Donc, je remercie vraiment, vraiment les gens qui étaient sur... On va pas dire autour de la table, derrière cette table ce soir. Donc, Nicole Loupide, l'Office fédéral de l'énergie. Nicolas Clerc, tout au fond, du service de géologie des sols et du canton de Genève. Olivier Esderian, de l'École polytechnique fédérale. Environmental Systems Sciences, n'est-ce pas? Voilà. Et Benoît Vallet, évidemment, de l'Université de Neuchâtel. Et merci à Igor Chlebny pour l'accueil. Et bonne soirée à tout le monde.
Juste encore votre attention. Alors, merci beaucoup à Sylvio Dolzon pour l'animation de cette passionnante soirée. Excusez-moi. Je voudrais vous donner rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain café scientifique. On sera à la veille du 1er mars, c'est-à-dire le 21 février, où nous aborderons l'histoire de notre région, et nous parlerons cohésion cantonale sous l'angle historique, puisque le 1er mars de cette année, nous fêterons les 170 ans de cette fameuse marche révolutionnaire que chaque année on célèbre dans ce canton. Donc je vous invite tous à venir le 21 février, il ne faut pas que je me trompe de moi, ici même, dans cette même salle. Vous avez un peu de la documentation sur cette table-ci. Il y a de la documentation qui vient du Chine, donc du Centre d'hydrogéologie et de géothermie de l'Université de Neuchâtel. Vous pouvez apprendre qu'on fait notamment des masters en hydrogéologie et en géothermie. Il y a aussi un cours de formation continue en géothermie profonde qui se donne régulièrement dans nos murs. Et puis le programme annuel des cafés scientifiques qui est un peu disposé un peu partout sur les tables, que je vous invite à prendre chez vous. Voilà, vous trouvez tout sur Internet de toute façon. Et je vous remercie encore. Merci à la technique, Joël Morf. Et que cette discussion est enregistrée, et vous pouvez la retrouver aussi sur nos pages web d'ici quelques jours. Merci beaucoup et bonne soirée.